Il est 12h15. Le journal de Mathieu Schaffner.
Bonjour. L'impôt des frontaliers ne cesse d'augmenter dans le Jura. Il a progressé de près de 15 millions de francs en 7 ans. Une hausse plus forte que celle du nombre de travailleurs frontaliers. Détail de cette évolution dans un instant. La péréquation financière donne le sourire à Valterbi. La commune fusionnée va toucher 500 000 de plus l'an prochain. De quoi tabler sur un budget bénéficiaire. Il sera présenté ce soir au Conseil Général. 4 jurassiens en lice au CHI de Genève. Steve Gerda, Alain Youfer, Anthony Bourquin et Gaëtan Jolia vont batailler avec la crème du saut d'obstacle. Le concours lémanique offre une densité rare entre demain et dimanche. Un temps bien ensoleillé et doux, le menu météo de l'après-midi s'étendra sur l'ensemble de la semaine. Seul changement, les températures vont perdre quelques degrés au fil des jours. Ce n'est pas le moment de renégocier avec la France le taux de rétrocession de l'impôt des frontaliers. C'est la conclusion du gouvernement jurassien. Il l'indique dans son dernier rapport au Parlement sur cet impôt. L'exécutif est tenu de remettre en fin de législature un rapport pour définir si une renégociation de ce taux s'impose ou non. Un taux établi à 4,5% depuis les années 80. Et si le moment semble mal choisi pour rediscuter, c'est notamment en raison de la crise Covid qui est passée par là, Jérémy Pignard.
Oui, et pourtant ce taux de 4,5% date déjà de plus de 40 ans. L'accord date de 1983 et lie 8 cantons, dont le Jura, qui a donc la possibilité de proposer une réévaluation si l'évolution des conditions le justifie. Pourquoi le Covid a changé la donne? Parce que, souvenez-vous, le télétravail a explosé durant la crise sanitaire et il y avait eu débat et discussion à l'époque, puisqu'un frontalier qui télétravaille depuis son domicile français, eh bien la France pourrait prétendre pour ses jours télétravaillés à 100% de son imposition sans rétrocession à la Suisse. Pour éviter ça, un avenant a été signé. La Suisse a réussi à sauver intégralement ses 4,5% de rétrocession jusqu'à 40% de télétravail. En contrepartie, la France a obtenu un échange automatique des données salariales dès 2026. Plutôt un bon deal pour la partie helvète d'un point de vue rentrée fiscale. De ce fait, ce n'est pas vraiment le moment de renégocier avec la France, estime le gouvernement, qui avance qu'il n'obtiendrait pas non plus le soutien des autres cantons signataires de cet accord.
Et il faut dire aussi, Jérémy, que cette rétrocession de l'impôt des frontaliers rapporte beaucoup au canton du Jura.
Et oui, cette rétrocession de 4,5% a rapporté près de 40 millions de francs en 2024, 39,3 millions pour être exact, un chiffre en nette augmentation ces dernières années. C'était 24,8 millions en 2017, donc ça a grimpé de plus de 58%. Le nombre de frontaliers aussi a augmenté de 10 600 en 2017 à 15 900 en 2024, ça fait plus 49%. Vous le constatez, l'impôt augmente plus que les frontaliers, dont le nombre stagne d'ailleurs, ce qui signifie que les salaires des frontaliers, eux, tendent à augmenter. C'était évidemment la réalité de 2024. Les remous connus sur l'année en cours feront peut-être varier ces chiffres. Précisons encore, qui touche cette fameuse rétrocession de l'impôt, elle va surtout aux communes jurassiennes qui en prennent 90%. Les 10% restants vont au canton.
Votre éclairage à Jérémy Pignard sur le rapport du gouvernement jurassien au Parlement concernant l'impôt des frontaliers. Le Parlement jurassien qui va vivre son avant-dernière séance de la législature, ce sera demain. Les députés se pencheront sur le budget 2026 qui prévoit un déficit de 16 millions de francs. Ils sont aussi appelés à donner une garantie de l'État à hauteur de 95 millions, ceci en faveur de l'hôpital du Jura pour financer la construction du nouveau site à Delémont. Autre point à l'ordre du jour, l'initiative populaire pour la création d'un fonds climat, Régis Serve.
L'adoption du plan climat cantonal remonte à 2023. L'initiative, formulée en termes généraux, émanait des partis de gauche, des Verts libéraux et d'associations environnementales. La commission de l'environnement et de l'équipement se dit aujourd'hui favorable à lui donner suite et veut laisser suffisamment de marge de manœuvre au Parlement quand il s'agira d'adopter les dispositions légales nécessaires à la réalisation. La position de la majorité de la commission est rejointe par celle du gouvernement jurassien. Une minorité de la commission votera contre l'entrée en matière et ne souhaite pas donner suite à l'initiative. Elle estime que le mode de financement de ce fonds climat n'est pas suffisamment précis.
Et cette séance du Parlement jurassien est à vivre en vidéo sur rfj.ch. Vous retrouverez les traditionnelles questions orales demain matin en direct sur notre antenne à partir de 8h30. Valterbi veut voir la vie en vert. Le Conseil général de la commune fusionnée se penchera sur le budget 2026 ce soir à Vic. Ce sera lors de sa dernière séance de l'année. Les prévisions comptables annoncent un bénéfice de 5 900 francs. Cela fait plusieurs années qu'elle n'avait pas été aussi optimiste. Émilie Moumentaler.
Ce résultat positif s'explique principalement par une hausse de la péréquation financière de 525 000 francs. Selon le conseil communal, le montant perçu reste toutefois insuffisant en comparaison à la manne disponible dans les communes plus riches. Au niveau des valeurs significatives, l'imposition est en hausse de 354 000 francs par rapport à 2025. Indicateur le plus fiable de la santé financière de la commune fusionnée, la capacité d'autofinancement s'élève à 1,2 million de francs, soit 210 000 francs supplémentaires. Le montant des investissements pour l'année prochaine est de 960 000 francs. L'exécutif explique que l'avenir peut être envisagé sereinement avec une fortune de 2,1 millions de francs et une réserve de politique budgétaire de 3 millions. La prudence reste de mise en raison du ralentissement économique qui affecte l'industrie régionale. La quotité d'impôt est ainsi inchangée à 2,20, tout comme les taxes communales. Par ailleurs, les autorités de Valterbi rappellent une énième fois l'urgence de faire avancer le dossier de la répartition des charges entre le canton et les communes. Elles déplorent que le principe du « qui commande paye » n'est pas respecté en lien avec les charges liées qui dépendent de décisions cantonales.
Rire sur la joue revient pour une nouvelle dose d'humour. L'association La Diva a présenté ce matin le programme de la 4e édition, une édition qui se tiendra du 15 au 18 avril à la Maison des Œuvres. L'événement s'ouvrira avec le spectacle familial du magicien Paul Hugo. Le lendemain, place au La Joue Comedy Club animé par la jurassienne Laura Chénia. Le programme prévoit aussi deux soirées spectacles avec en tête d'affiche les Français Anthony Joubert et Christelle Cholet. On vous donne tous les détails du 4e festival de Rire sur la joue ce soir dans le journal. Journal de 18h. Le prochain budget de la Confédération obtient un premier feu vert, celui du Conseil national. Il a été donné ce matin après 13 heures de débat. La mouture validée prévoit un déficit de 692 millions de francs. Ce projet repart désormais au Conseil des États. Les radios suisses pourront prolonger leur diffusion en FM jusqu'en 2031. Le Conseil des États a accepté cette option en fin de matinée. Le Conseil national en avait fait de même en septembre. Le débat a été tendu. La socialiste jurassienne Mathilde Crevoisier-Crelier s'est abstenue alors que le centriste Charles Juillard a soutenu la prolongation. Au vu du résultat serré, les abstentionnistes ont évité de faire capoter l'intérêt des radios régionales. La présidente de la commission des télécommunications, la valaisanne Marianne Marais, a goûter à la tension du débat.
Vous avez raison de relever que le débat était un peu tendu. Ça m'a surprise parce que j'ai pas d'explication à cela, que les avis soient divergents. Alors naturellement, c'était connu. Moi, je savais que ce serait serré, c'était une évidence pour moi. Mais que ce soit tendu comme ça, j'ai franchement pas compris. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de lobbying de part et d'autre là derrière, et c'est ce qui fait qu'un certain nombre d'orateurs se sont sentis investis d'une mission.
Est-ce qu'on a un peu eu les anciens contre les modernes en quelque sorte ?
Il y a eu une prise de parole qui allait dans ce sens-là, à mon avis vraiment, qui a voulu caricaturer le fait que l'on maintienne la FM, parce que plutôt que les anciens et les modernes, c'est ceux qui ont des véhicules de nouvelle génération contre ceux qui ont des véhicules d'ancienne génération qui sont pas forcément des anciens, mais des gens qui sont moins fortunés, alors parfois c'est assez intéressant de ne pas les oublier. Hein.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Les médias doivent garantir plus de transparence sur l'identité des personnes qui commentent leurs publications sur Internet. Sans cela, ils pourraient se voir privés de leurs subventions. Le Conseil des États a accepté ce matin une motion en ce sens. Le National doit encore se prononcer. Et puis on repart à présent sur l'île Maurice. Toute cette semaine, la matinale s'intéresse à cette destination touristique majeure où de nombreux Suisses apprécient la douceur de l'océan. Alors que la saison touristique bat son plein, l'approvisionnement en eau est un immense défi pour les locaux, mais aussi pour les prestataires touristiques. Marceline Michon vous propose cette série en 4 épisodes réalisée pour Enquête d'ailleurs, un programme d'échange entre journalistes de Suisse et de l'étranger. Pour le 2e épisode, on plonge dans le quotidien des habitants de Maurice, une île où l'approvisionnement en eau ne coule pas de source.
À Maurice, l'eau du robinet est utilisée pour cuisiner ou se faire du thé. Pour boire, il faut acheter des bouteilles en PET et c'est une agence gouvernementale, la CWA, Central Water Authority, qui gère l'approvisionnement en eau de ses abonnés, plus de 400 000 personnes. Marc, biennois expatrié à Maurice, nous raconte son quotidien.
À Père-Hébert, l'approvisionnement en eau se fait que temporairement pendant la journée. Il a lieu entre 3h de l'après-midi jusqu'à 8-9h le soir. Nous, ça nous permet de remplir notre réservoir. Le problème, c'est que même l'approvisionnement pour remplir le réservoir n'est pas garanti ici. On a eu presque 4 semaines aucune livraison d'eau de la part de la commune. On a eu beaucoup de problèmes à se faire livrer par la CWA. Donc on a dû recourir à des gens privés qui livre l'eau, mais à ce moment-là, c'est clair qu'on a dû payer l'approvisionnement d'eau.
À la CWA, l'agence gouvernementale, on reconnaît une question sensible.
C'est un sujet qui doit être abordé avec beaucoup de tact, sinon on risque d'énerver les gens ou de créer des situations qui deviennent difficiles à gérer.
Sunil Gopal, chargé de communication à la Central Water Authority, explique les défis de l'approvisionnement en eau à Maurice.
La première difficulté, c'est que les sources diffèrent d'endroit en endroit. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle les surface réservoirs. Nous avons également les nappes phréatiques. Mais il y a également une autre source, c'est-à-dire qu'on fait des barrages sur les rivières. Il y a aussi le facteur du climat, parce qu'avec le changement climatique, la façon que la pluviométrie était avant, ça a beaucoup changé. Cette année-ci, un phénomène assez rare s'est produit. D'habitude, on fait le plein quand il y a les grosses pluies d'été, mais cette année-ci, il n'y a pas eu vraiment de pluie. Mais durant l'hiver, par contre, on a été copieusement arrosé. Ce qui nous a permis de sortir dans cette situation qui était devenue assez précaire, c'est-à-dire réduire les horaires de distribution de façon très drastique.
L'eau est aussi une préoccupation majeure pour les agriculteurs. Dans le village de Triolet, Vera Penlogadassène, agriculteur maraîcher, m'accueille dans son exploitation.
Les légumes spéciaux chez l'île, vous pouvez avoir les patates douces locaux. Les pastèques en l'île Maurice, c'est le meilleur qu'on a au monde, on peut dire. Et aussi le citronnelle, qu'on a fait une petite plantation, on essaie d'agrandir maintenant, pour utiliser pour les bars des hôtels.
Ces fruits et légumes verront à peine les ventes aux hôtels et restaurants de Maurice, ses premiers clients. Il vit donc lui aussi du tourisme et doit composer avec de nombreuses restrictions d'eau.
Oui, ça il y en a. Il y en a plusieurs. En novembre, décembre, en période festive, c'est plus restrictions.
Pour s'en sortir, Vera Penn dispose de réservoirs de plusieurs milliers de litres pour capter l'eau de pluie. À Maurice, les défis de l'approvisionnement en eau sont inhérents à cette petite île de l'océan Indien, explique Emmanuel Reynard, professeur de géographie à l'Université de Lausanne et spécialiste de la gestion de l'eau.
Les îles, par leur localisation et l'absence de connexion avec des territoires plus grands, sont confrontées lorsqu'il y a une certaine rareté de la ressource à la difficulté de se faire approvisionner par des territoires qui sont un peu plus lointains.
Et c'est là que se trouve le véritable défi, assurer le développement touristique du pays et l'approvisionnement en eau de ses habitants.
L'île Maurice, où les tensions apparaissent autour de l'approvisionnement en eau, un sujet réalisé par Marceline Michon dans le cadre du programme d'échange entre journalistes Enquête d'ailleurs. Rendez-vous demain à 7h45 dans la matinale pour le troisième épisode.
Vous écoutez RFJ, il est 12h28.
RFJ, sport.
Genève accueille le gratin mondial du saut d'obstacle. Le CHI se tient dès demain et jusqu'à dimanche à Palexpo. Les meilleurs cavaliers du monde seront de la partie sur la piste lémanique. Une piste qui compte parmi les plus prisées de la saison. Quatre jurassiens figurent sur les différentes listes de départ et nourriront des ambitions distinctes. Steve Guerda, Alain Youffert, Anthony Bourcard et Gaëtan Jolia. Les épreuves vont se succéder sur les bords du lac Léman et cette densité réjouit le directeur sportif de la manifestation, Alban Poudret.
On a beaucoup de chance parce qu'on a les meilleurs cavaliers du monde, les meilleurs chevaux du monde aussi, ce qui est encore moins évident. Les meilleurs cavaliers, ça arrive quand même 10-12 fois dans l'année. Mais les meilleurs cavaliers avec leurs meilleurs chevaux, tous leurs meilleurs chevaux, ça c'est 3-4 fois au maximum dans l'année. Donc on a beaucoup de chance. On est aidé par la finale du top 10 mondial, le top 10, qui forcément attire les meilleurs. Donc ça, ce sera le vendredi soir. Mais déjà, le jeudi soir, on a la plus grosse qualificative pour le dimanche, pour le Grand Chelem. Donc finalement, qui veut être le dimanche au départ du Rolex Grand Prix doit déjà être très bon, en tout cas bon, le jeudi soir. Donc c'est vrai que c'est un programme très dense avec un peu une montée en puissance. Pour donner vraiment un sens à tout ça aussi, on a décidé que les deux qualificatives du jeudi soir et du vendredi après-midi donneraient l'ordre de départ du dimanche. C'est-à-dire que ce sera l'ordre inverse du classement sur ces deux qualificatives. Donc ceux qui auront brillé le jeudi et le vendredi auront un avantage le dimanche en partant à la fin. On sait que c'est surtout un avantage au barrage, où là, on joue le chronomètre et que ça peut être très très décisif d'avoir un bon numéro de dossard, si j'ose dire.
Et le coup d'envoi du CHI de Genève sera donné demain à Palexpo. Le championnat de Challenge League pourrait se poursuivre à 9. Bellinzone s'est vu retirer sa licence de jeu avec effet immédiat aujourd'hui. La Swiss Football League dit ne pas constater consentir au changement de propriétaire du club en cours de saison. Les dirigeants de la formation tessinoise ont 5 jours pour faire recours. L'information revient à 13h et se poursuit en tout temps sur notre site internet rfj.ch. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Tout de suite, Jérôme enfile son costume de Monsieur Météo. Bel après-midi.
RFJ Sport.